Amy Elliott Dune, 28 avril 2011. Journal. Faut persévérer dans la persévérance. C'est ce que dit ma maman. Et quand elle le dit, son assurance, sa façon de souligner chaque mot, comme si c'était une stratégie de vie viable, l'expression toute faite cesse d'être un cliché et se transforme en quelque chose de vrai, de valable. Persévérer dans la persévérance. Exactement. C'est une chose que j'aime dans le Midwest. Les gens ne se mettent pas dans tous leurs états à tout bout de champ. Même pas quand il s'agit de la mort. Mamamo va simplement persévérer dans la persévérance jusqu'à ce que le cancer l'éteigne, puis elle va mourir. Ainsi, je garde un profil bas et je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Et j'emploie ces expressions dans le sens profond, littéral, qui est celui de Mamamo. Je garde un profil bas et je fais mon boulot. Je conduis Ma à ses rendez-vous chez les médecins, à ses séances de chimio. Je change l'eau croupie des fleurs dans la chambre du père de Nick. Et j'offre des cookies au personnel afin qu'on prenne bien soin de lui. Je fais contre très mauvaise fortune bon cœur. Et ma fortune est surtout mauvaise parce que mon mari qui m'a emmenée ici, qui m'a déracinée pour être plus près de ses parents malades, semble s'être complètement désintéressé, et de moi, et de ses parents malades. Nick a complètement répudié son père. Il refuse même de prononcer son nom. Je sais que, à chaque fois que nous recevons un coup de téléphone de Comfort Hill, Nick espère que c'est pour lui annoncer la mort de son père. Quant à Mo, Nick n'est resté avec sa mère que pendant une seule séance de chimio, et il a déclaré que c'était insupportable. Il a décrété qu'il détestait les hôpitaux, qu'il détestait les malades, qu'il détestait le temps qui s'écoule, le goutte-à-goutte, affreusement lent de l'intraveineuse. Il était incapable de faire ça, voilà tout. Et quand j'ai essayé de le convaincre de recommencer, quand j'ai essayé de le pousser à s'endurcir, en lui rappelant que c'est la vie, on n'a pas le choix. Il m'a dit d'y aller, moi. Et je l'ai fait. J'y suis allée. Mamamo, bien sûr, prend sur elle ses manquements. Un jour, on regardait d'un œil distrait une comédie romantique sur mon ordinateur portable, en bavardant, pendant que l'intraveineuse coulait, si lentement. Et tandis que la courageuse héroïne trébuchait sur un canapé, Mo s'est tournée vers moi. « Ne sois pas trop dure avec Nick, » a-t-elle dit, « parce qu'il refuse de faire ce genre de choses. C'est que je l'ai toujours dorloté. Je l'ai traité comme un bébé. Comment faire autrement, avec ce visage ?» Alors il a du mal à affronter les difficultés. Mais ça ne me gêne pas, vraiment, Amy. Ça devrait vous gêner. « Nick n'a pas besoin de me prouver son amour, » a-t-elle répliqué en me tapotant la main. Je sais qu'il m'aime. J'admire l'amour inconditionnel de Mo. Je le jure. Alors je ne lui parle pas de ce que j'ai trouvé sur l'ordinateur de Nick. Le projet de livre. Un récit autobiographique sur un journaliste travaillant dans un magazine à Manhattan qui retourne à ses racines dans le Missouri pour s'occuper de ses deux parents malades. Il y a toutes sortes de trucs bizarres sur l'ordinateur de Nick. Et parfois, je ne peux pas résister à la tentation d'aller fureter un petit peu. Ça me permet de me faire une petite idée de ce qu'il y a dans la tête de mon mari. Son historique de recherche m'a donné les résultats les plus récents. Des films noirs, le site de son ancien magazine et une étude sur le fleuve Mississippi. Est-il possible de se laisser dériver d'ici au golfe en barque? Je sais ce qu'il s'imagine. Se laisser dériver le long du Mississippi comme Huck Finn et écrire un article sur le sujet. Nick est perpétuellement à la recherche d'un bon sujet. Je fouinais dans tout ça lorsque j'ai trouvé le projet de livre. Double vie, une expérience des fins et des débuts, éveillera un écho profond chez les hommes et les femmes de la génération X qui commencent juste à faire l'expérience du stress et de la pression lié au fait de s'occuper de ses parents vieillissants. Dans Double vie, je raconterai en détail ma compréhension de plus en plus intime d'un père perturbé, avec lequel je n'avais presque pas de lien autrefois. Ma transformation douloureuse, contrainte et forcée d'un jeune homme insouciant en chef de famille, tandis que je suis confrontée à la mort imminente d'une mère adorée. Le ressentiment éprouvé par ma femme, la New-Yorkaise de Manhattan, devant ce retournement imprévu dans sa vie de rêve. Ma femme, il faut le signaler, est Amy Elliott Dune, l'inspiration de la série de best-sellers « L'épatante Amy ». Le projet n'a jamais été mené à bien, parce que Nick a réalisé qu'il n'allait jamais comprendre intimement ce père autrefois si distant, qui est perturbé, mais pas assez pour sceller un contrat d'édition, j'imagine. Et parce qu'il était clair que Nick esquivait tous ses devoirs de chef de famille. Et parce que je n'exprimais pas la moindre colère à l'égard de ma nouvelle vie. Un peu de frustration, oui, mais pas le genre de rage qui suffit à nourrir un bouquin. Pendant tant d'années, mon mari a chanté les louanges de la solidité affective des gens du Midwest. Ils sont stoïques, humbles, sans affectation. Mais ce ne sont pas le genre d'individus qui donnent matière à un bon récit. Imaginez le pitch. Globalement, les gens ont bien agi, puis ils sont morts. N'empêche, le ressentiment éprouvé par ma femme, la New-Yorkaise de Manhattan, ça fait un peu mal. C'est vrai que j'éprouve du ressentiment. Quand je pense à Maureen, qui est constamment adorable, je crains que Nick et moi ne soyons pas faits l'un pour l'autre. Il serait peut-être plus heureux avec une femme qui n'aime rien tant que s'occuper de son mari et de son foyer. Et je ne veux pas dénigrer ce talent. J'aimerais bien le posséder. J'aimerais bien que ce soit plus important pour moi que Nick ait toujours son dentifrice préféré, connaître son tour de cou par cœur, être une femme pleine d'un amour inconditionnel dont le plus grand bonheur soit de rendre mon homme heureux. J'ai été ainsi pendant un certain temps avec Nick. Mais ça ne pouvait pas durer. Je ne suis pas assez altruiste. Une enfant unique, comme Nick le souligne régulièrement. Mais j'essaie. Je persévère dans la persévérance. Et Nick batifole de nouveau en ville comme un gamin. Il est content d'avoir retrouvé la place de roi du bal de fin d'année qui lui revient de droit. Il a perdu dans les 5 kilos, il a changé de coupe de cheveux, il s'est acheté un nouveau jean, il a une sacrée allure. Mais je ne le sais que pour le peu que je l'aperçois entre deux portes, toujours pressé, soi-disant. Ça ne te plairait pas. Sa réponse réglementaire à chaque fois que je lui demande de venir avec lui, où qu'il aille. Exactement comme il s'est défaussé de ses parents quand ils ont cessé de lui être utiles. Il me laisse choir, parce que je cadre mal avec sa nouvelle vie. Il serait obligé de faire des efforts pour m'aider à me sentir à l'aise ici, et ça ne l'intéresse pas. Il a envie de s'amuser. Arrête, arrête. Je dois voir les choses du bon côté. Littéralement. Je dois sortir mon mari de mes pensées sombres et sinistres et l'éclairer d'une lumière dorée, brillante. Je dois m'efforcer de l'adorer comme avant. Je voudrais juste avoir le sentiment que c'est plus équitable. Mon cerveau est tellement agité de pensées au sujet de Nick que ça grouille dans ma tête. Nick, 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 Nick. Or, quand je me représente son esprit, mon nom n'y figure que comme un timide tintement cristallin qui ne se fait entendre qu'une fois, peut-être deux fois par jour, et s'estompe bien vite. Je voudrais juste qu'il pense autant à moi que je pense à lui. Est-ce mal ? Je ne sais même plus.